RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Grégory Millot.
Bonjour Mathieu, comment vas-tu ?
Bah ça va super. On s'est retrouvé donc à l'occasion de cette fin d'année. Hein. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer. On était Noël dernier. Tu nous avais concocté une superbe sélection de vins. Forcément, ce sont des conseils qui ont porté, qui intéressent à chaque fois nos auditeurs au moment des fêtes. Grégory, est-ce qu'on peut déjà te représenter ? Tu as un parcours qui est quand même assez étonnant. Tu as pas mal roulé ta bosse un petit peu à droite à gauche. Hein.
Oui, effectivement. Donc là, je suis directeur de la sommellerie pour le groupe Espace Saveur et j'officie actuellement donc au restaurant Le Petit Bistrot à Bel Air, anciennement le restaurant qui était très connu au Luxembourg qui s'appelle le Bel Canto. Voilà.
Et avec des passages à l'étranger aussi hein, auparavant. Hein.
Auparavant, pas mal de passages à l'étranger, en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne, un petit passage en France parce que je suis quand même français, faut pas l'oublier. Et puis après, depuis quelques années, au Luxembourg, au Grand-Duché.
Ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça permet aussi de préparer des vins, de présenter des vins qui viennent un petit peu de partout. Rappelons-le, ce titre de meilleur sommelier du Luxembourg avec une solide connaissance de tous les vins. On est à un moment charnière de l'année, c'est le moment où on va vouloir se faire plaisir, c'est le moment où aussi on ouvre les meilleures bouteilles que l'on en a placées à la cave. Toi, tu commences en général par proposer quel type de vin comme ça à l'apéritif pour ces grands repas de fête, sachant qu'il va falloir faire de la place pour tout et pour tout le monde.
Pour ces fêtes de fin d'année, une bulle est toujours très intéressante pour l'apéritif. Alors j'avais pensé à deux alternatives cette année. Alors soit partir sur un classique champagne, donc une nouvelle découverte que j'ai pu faire, qui s'appelle le champagne de la maison Selec, cuvée sous l'essence, sur un brut nature. Donc un champagne pas du tout dosé, de la fraîcheur, de la minéralité sur un assemblage très classique de chardonnay, pinot noir et pinot meunier. Très rafraîchissant, qui peut vraiment s'accommoder avec pas mal de petites agapes, et quelques ceviches, etc. pour l'apéritif, ça peut être vraiment assez intéressant. Pour la version luxembourgeoise, j'ai fait une découverte il n'y a pas longtemps, une redécouverte, la cuvée, donc le crément de la maison Bernamassa, la cuvée 1921, qui est leur grande cuvée qu'ils avaient sortie pour le centenaire de la maison Bernamassa. À l'aveugle, on est vraiment sur un très grand champagne, sauf qu'on est sur un crément du Luxembourg, concocté par l'équipe d'Antoine Clazon que je salue.
Alors tu parlais donc précédemment de champagne qui n'était pas dosé. Qu'est-ce que ça va apporter d'un point de vue gustatif comme ça avant le repas ?
Ça va amener de l'appétence, ça va réveiller les papilles et ça ne va pas écraser le palais pour les différents plats ou mets qu'on peut déguster avec et pour la continuité du repas. Mais justement le côté un petit peu sapidité va aider à exalter les goûts pour la suite du repas, surtout pour les repas un petit peu chargés. Il faut vraiment de la fraîcheur, c'est très important la fraîcheur.
Le travail de sommelier c'est essentiellement du conseil, donc tu es là pour conseiller pour les vins, mais tu conseilles aussi au niveau des mets, par exemple sur les ordres, l'ordre dans lequel on va pouvoir servir aussi les différents plats, tout de suite après l'apéritif, sachant qu'on parle d'un grand plat de fête, qu'est-ce que tu vas proposer comme plat finalement, puisqu'on sait, on a le choix entre du poisson, des viandes, des hors-d'œuvre, des choses comme ça. Et avec quel vin tu vas souhaiter les accommoder ?
Alors cette année, j'ai pensé proposer des fruits de mer, un coquillage que tout le monde connaît, l'huître, mais pas forcément en version crue. J'ai pensé réfléchir avec un sabayon au champagne et accommoder avec une julienne de légumes, tout simplement. Et pour l'accompagner, donc bien sûr, c'est ce huître chaud serait rôti au four, pas longtemps, hein, c'est quelques minutes, histoire de pouvoir cuire tout ceci et que l'huître puisse, entre guillemets, bouillir dans son eau de cuisson. Et j'avais pensé à déguster un joli Riesling de Moselle, mais de Moselle allemande, donc sur Bernkastel, sur les belles ardoises bleues de Bernkastel, la maison Clemensbusch 2020, et sur la cuvée From Blumenschiefer. Donc on est sur un très beau Riesling, l'origine des Riesling, minéralité, fraîcheur, sur lequel on ne va pas forcément avoir le côté pétroleux du Riesling, mais la maturité, la fraîcheur, la minéralité et une belle profondeur en bouche. Et je pense que ça va pas forcément écraser l'huître chaude, mais plus être un complément de ce mets avec le côté iodé et salin de l'huître. Je pense que ça peut être une belle découverte pour les amateurs du Riesling, surtout dans la région des trois pays.
Il se dit que le meilleur Riesling au monde se trouve en Allemagne. Toi qui as eu l'occasion d'officier en Allemagne, tu confirmes
cette thèse, ouais. Alors, il y a un très beau Riesling, c'est quand même un beau cépage. Qu'on soit en Alsace, qu'on soit au Luxembourg, même en Australie, à Clare Valley, pour moi, les grands Riesling, c'est la Moselle allemande et c'est l'ardoise bleue. C'est vraiment le terroir d'origine.
On passe au plat suivant et au vin suivant.
En deuxième plat, je pensais qu'on pouvait proposer un poisson ou un crustacé cuit. Alors tout simplement, je pensais à cette année proposer tout simplement des coquilles Saint-Jacques qui seraient truffées, donc piquées avec des petites truffes, des petits morceaux de truffes, et avec un velouté du Barry, donc un velouté de chou-fleur. Et là, pour accompagner, à partir sur un grand terroir de par exemple de Bourgogne, sur un beau morceau. Ouais, je suis un grand fan de morceaux, comme tu le sais très bien. Et partir cette année sur un morceau donc, du domaine Karen Bousset, c'est une nouvelle découverte que j'ai pu faire, sur un millésime 2018, un millésime chaud et assez opulent. Mais tout simplement, le côté un petit peu onctueux et beurré du morceau, allié avec de la fraîcheur, ça peut vraiment s'accommoder avec un joli plat de fête et tous les arômes de truffes, parce qu'on est quand même sur des arômes un petit peu d'évolution. Sur le morceau, et je pense qu'avec le côté un petit peu crémeux et onctueux et un plat réconfortant qu'est la Saint-Jacques truffée, ça peut être un bel accord pour les convives.
Comme on le disait au début de ce podcast de la Route des Vins du Luxembourg, c'est souvent l'occasion d'ouvrir les meilleures bouteilles qui se trouvent à la cave. Mettons que quelqu'un dispose d'une bouteille de Meursault dans sa cave, est-ce qu'il y a un millésime aujourd'hui que tu conseillerais d'ouvrir? C'est-à-dire qu'on est en fin d'année 2024. Selon toi, le millésime idéal à déguster, ce serait lequel?
Pour moi, ce serait millésime 2008. C'est un millésime riche et chaud. Par exemple, si des clients ont par exemple un morceau Claude Labarre des Comtes Lafond, qui est un grand classique, je sais beaucoup d'amateurs au Luxembourg en disposent. Si vous avez des millésimes 2008, je pense qu'on est sur un millésime qui actuellement se déguste très très bien sur morceaux.
Des huîtres, des Saint-Jacques, on passe à quoi exactement?
Une tourte de pigeon.
Ah tiens, original.
Une tourte de pigeon qui serait donc garnie donc bien évidemment de pigeon, d'un foie gras poêlé, et le tout rôti dans une tourte fermée, avec lequel on pourrait agrémenter donc un jus de pigeon réduit, accompagné juste éventuellement d'une salade avec une vinaigrette au jus de pigeon et quelques solidesses un petit peu rôties, ça peut être assez intéressant. Et là, je pensais tout de suite dans les terroirs d'Italie, de Barolo, parce que la clientèle luxembourgeoise aime Barolo comme moi. Et une découverte que j'ai faite à Vinitaly au mois de mars au Grand Salon Italien, un Barolo Bussia 2013 de la maison Marone sur les terroirs de la Mora. Mais là on serait sur la Bussia. C'est un vin qui est extrêmement magnifique. 2013 était un très grand millésime, contrairement à la France par exemple. En Italie, c'était un millésime classique, pas trop chaud, des belles maturités et de la finesse. Et maintenant on arrive à un apogée, des arômes un petit peu champignonnés, un petit peu tertiaires, un petit peu de fourrure, un petit peu de terre humide, et avec un joli pigeon et un jus un petit peu réduit, ça peut être un accord somptueux. Moi, je m'en délecte rien que d'y penser.
Après le pigeon, c'est un défi qui n'est pas forcément facile à relever. On est sur quelque chose qui est un petit peu racé, qui tout de suite va marquer son empreinte au sein du repas. Tu as pensé à quoi?
Si les convives partaient avec du fromage, je proposerais un peu des poisses, un bleu style un Stilton, et une découverte que j'ai découvert en fromage, ça serait le barillé. Donc ça ressemble un peu à un Brillat Savarin et qui est truffé. Alors deux idées. Soit on pourrait partir sur un Madère. Un Madère Medium Dry de la maison Henriques. C'est riche, c'est un vin fortifié, il y a de la finesse, il y a de la fraîcheur, il y a de l'onctuosité. C'est un petit peu sucré, c'est pas trop oxydatif, ça peut être vraiment assez intéressant pour les fans de vin fortifié. Sinon, pour raviver un peu les papilles, pour préparer avant le dessert, j'ai aussi fait une découverte que je propose au restaurant. Ça serait un champagne blanc de blanc brut nature de la maison Veuve Fourny. Parce que justement, vous avez le côté un petit peu crémeux, onctueux et frais d'un champagne brut nature en blanc de blanc, donc 100% chardonnay, qui va permettre justement d'accompagner le côté crémeux des fromages sans pour autant les écraser, et qui va permettre justement de ne pas trop écraser le palais et prendre le dessus pour après accompagner la fin de repas avant le dessert, bien évidemment.
Allez, tiens, on va parler un petit peu technique. Est-ce qu'on peut rappeler le principe de fabrication du Madère? Je sais que tu es un grand fan de Porto, toi en l'occurrence. Est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce qu'on produit le Madère?
Alors le Madère, c'est un vin qui est fait, donc par exemple en l'occurrence celui-ci, à base de cépage Verdelho. Et après, c'est un vin qui est fortifié avec de l'alcool neutre de la région. Donc le vin est chauffé à 45 degrés pendant quelques semaines avant d'être redescendu à 25 degrés, ce qui va lui permettre, c'est le procédé Estufagum, et ce qui va lui permettre justement de permettre d'avoir les arômes un peu plus d'évolution, comme il peut y avoir pour le Porto, mais avec une façon beaucoup plus rapide. Et c'est là que vient l'expression un peu coutumière que j'aime pas trop, de vin cuit. L'expression vin cuit en fait vient du madère, parce que justement on chauffe un petit peu le vin pour pouvoir avoir les arômes d'évolution. C'est ce qui était fait dans l'ancien temps, justement, exactement. Et je trouve quand même que c'est des vins quand même d'exception qui parfois sont réduits au simple vin pour faire la cuisine. Et il y a des très très grands terroirs à Madère.
Et on est là justement pour révéler ces quelques pépites. Et donc il y a ce blanc de blanc aussi. Revenons un petit peu sur la technique. Il y a une particularité sur le blanc de blanc par rapport au cépage, parlons-en.
Déjà, cette maison Veuve Fronie, c'est une maison que je ne connaissais pas, qu'un ami qui vend du vin ici au Luxembourg m'a proposé. Il vend une belle gamme de champagne. Et la maison Veuve Fronie, en fait, on en a parlé l'autre jour pour avoir une offre différente pour le fromage. Et il m'a dit, écoute, tu devrais mettre un champagne blanc de blanc, brut nature, minéral et frais. Donc le concept, c'est un champagne qui peut pas doser comme celui de l'apéritif et uniquement à base de champagne. Maison Veuve Fronie, c'est une maison vraiment emblématique de champagne. C'est un petit producteur, mais qui fait des vins d'une très belle production. Il y a à peu près 6 hectares, donc c'est vraiment tout petit, mais ils font vraiment des jus d'une très belle qualité. Vous pouvez les retrouver à Luxembourgville, au très beau bar à vin Flûte à l'Or, dont les deux sommeliers ont été élus meilleurs sommeliers du Luxembourg, Palogo et Mio, il y a quelques semaines.
Flûte à l'Or que la Route des Vins du Luxembourg était allée trouver au moment de l'ouverture et qui avait flairé finalement ses talents, puisque rappelons-le, c'est un établissement qui est vraiment spécialisé dans les vins vins d'auteur, champagne d'auteur. Enfin, on est vraiment sur des choses très confidentielles.
Donc on fait un très beau partenariat avec eux.
Ouais. On passe déjà au dessert.
Alors dessert, deux idées. Soit une forêt noire, parce que je suis un grand fan de forêt noire, et quand même il y a beaucoup d'enfants à Noël et de famille, et le dessert au chocolat quand même sont des desserts quand même qui sont réconfortants et des desserts familiaux. Donc là, on va quand même repartir sur un Porto. Quintana Noval 2014, du fruit, la rondeur, des fruits rouges. C'est vraiment un vin de Porto, du fruit, et c'est facile à boire. À une température de 14-15 degrés, c'est le genre de vin de dessert que vous pouvez déguster en fin de repas très facilement.
On voit bien un Porto à température ambiante, c'est un peu compliqué.
La température de service sur les vins fortifiés est super importante, parce qu'il faut les servir un peu plus frais pour que tous les arômes de fruits se révèlent et que vous n'avez pas l'alcool qui ressorte.
Donc on fait quoi? On met la bouteille au frigo 20 minutes
frigo,
avant, c'est ça?
20 minutes avant et après vous avez juste à leur sortir du frigo juste avant, allez, 15 minutes avant de manger et là vous êtes à la bonne température de service.
D'accord, donc contrairement à un vin classique qu'on va mettre au frigo où ça va casser les tanins, enfin ça va pas être bon pour le vin, là on n'est pas embêté, j'imagine.
Exactement.
La présence de l'eau de vie peut-être qui fait que...
Non, après sur un 2014 c'est des vins qui sont déjà un petit peu, dont les tanins sont un petit peu patinés, l'alcool de mutage on le sent plus, et la maison de Quintana Noval est une des maisons qui excelle dans son domaine et avec laquelle j'ai une grande confiance depuis pas mal d'années. Pour un deuxième dessert, parce que j'étais inspiré quand même, moi j'adore la tarte tatin. C'est pas un dessert de fête, mais c'est vraiment un dessert familial. Et pour l'accord, j'avais pensé, parce que j'en ai goûté l'autre jour dans un bar à vin à Luxembourg, partir sur la Loire, sur un chenin blanc, sur un bouvray demi-sec du domaine Huette, sur le Clos-de-Bourg 2020. Il y avait du fruit, il y avait de la fraîcheur, et il y avait des arômes un petit peu de coin confit, une légère sucrosité, mais pas trop. Et c'était vraiment pas lourd. Et je pensais qu'avec une tarte tatin, une boule de caramel au caramel fleur de sel, ça pourrait être très très beau avec un beau chenin de la Loire demi-sec, domaine Huette. C'est vraiment pour moi une des deux grandes maisons de Vouvray. Vous avez Huette et Foro. Et là, cette année, c'est Huette qui sera mis en honneur sur les tables du petit bistrot.
En tout cas, c'est un grand privilège pour nous de découvrir ces produits, car à longueur d'année, tu parcours un petit peu justement les différents établissements. C'est vraiment l'occasion pour nous de donner la chance à ces nouveaux produits qui méritent vraiment d'exister sur les tables luxembourgeoises au moment des fêtes. On termine ce repas sur un digestif, c'est ça l'idée ?
On peut, pour les fêtes de digestif, mais pour un digestif qui a vraiment beaucoup de tendance et pour laquelle j'ai vraiment voué, pas une passion, mais vraiment une belle... Donc j'ai découvert en tout cas cette année, c'est la chartreuse que tout le monde connaît. Et j'ai beaucoup apprécié cette année la chartreuse cuvée du 9e centenaire. C'est une verte, c'est une château verte, mais qui est vraiment assez ronde, assez délicate, pas trop alcooleuse. Servie justement à aller à 12 degrés parce qu'il faut pas la servir glacée. Je pense qu'en fin de repas, ça peut être un joli complément pour la digestion.
En plus, la chartreuse, c'est un digestif qui va pouvoir convenir aussi bien aux dames qu'aux messieurs.
Bon, il y a quand même de l'alcool, mais il y a quand même le côté sucré et acidité qui permet vraiment d'en faire un produit d'une certaine facilité de consommation. Pour changer des classiques cognac ou armagnac qui sont parfois un petit peu trop lourds et un petit peu trop alcoolisés.
Eh bien, merci beaucoup Grégory Millot de nous avoir proposé cette sélection de vins de fête. On va pouvoir un petit peu en profiter. Ça va être l'occasion aussi de faire justement des tests hein, sur certaines choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Bien joué pour le Madère. Évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de retrouver au moment du fromage ou autre. Quoi dire, si ce n'est qu'on a eu apparemment plutôt une belle année au niveau des vendanges. Ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu penses que les vins du millésime 2024 vont raconter quelque chose de positif?
À ce que j'ai entendu, il n'y aura pas forcément un grand volume, mais il y aura des vins d'une grande qualité. Et apparemment, tous les vignerons sont relativement très contents malgré la difficulté, les difficultés climatiques de cette année. Donc, je pense que ça va être un grand millésime.
Merci beaucoup pour ton accueil. Ici Grégory Millot. Je le rappelle, nous sommes au Petit Bistrot, juste en face de l'église Bel Air à Luxembourg.
Merci Mathieu. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
À bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.